France Musique. C'est l'été sur France Musique. Femme pionnière, Elsa Fattorino.
A woman must have money and a room of her own.
Et c'est cette nature qui m'a beaucoup porté des choses.
J'aime dire que je suis compositeur au sens de métier.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le cinquième volet de notre série d'été « Femmes pionnières ». Aujourd'hui, nous nous intéressons aux compositrices qui ont franchi les portes de l'opéra. Mais avant tout, un petit effort d'imagination. Figurez-vous une maigre Anglaise de 48 ans environ, vêtue d'une robe de couleur indéfinissable en forme de sac, qui déclara avoir étudié jadis à Leipzig. Ce sont les mots du chef d'orchestre, Bruno Walter, pour raconter sa première rencontre avec la compositrice britannique Ethel Smyth. Mais il nous invite à nous méfier des apparences. Ethel Smyth, poursuit-il, avait une âme de feu. La flamme en elle brûlait sans interruption. Qu'elle composa, qu'elle écrivit, qu'elle fit de l'agitation en qualité de suffragette, qu'elle dirigea un orchestre dans une sorte de kimono ou qu'elle conversa simplement. À l'acte 1 tiré de l'opéra d'Ethel Smyth, The Wreckers, Les Naufragés. Il était dirigé par l'Orchestre Philharmonique de la BBC et Odaline de la Martinez. The Wreckers est le troisième opéra de la compositrice. Il a été créé à Leipzig en 1906. Elle en écrira 7 au total. Le style d'Ethel Smyth, qui a vécu entre 1858 et 1944, est ancré dans le romantisme tardif. Ethel Smyth, ou plutôt Dame Ethel Smyth, puisqu'elle a été anoblie en 1922 par le roi George V, fait figure de pionnière dans le monde lyrique. Elle est la première femme à avoir été jouée au Metropolitan Opera de New York. C'était en 1903 pour son opéra d'Erwald, La Forêt. Ethel Smyth, je vous l'ai dit, avait un tempérament ardent, combatif, déterminé. À partir de 1911, elle participe activement au mouvement des suffragettes qui réclament le droit de vote. Elle compose « The March of Women » qui devient l'hymne du mouvement. Ethel Smyth lance une pierre dans la fenêtre du secrétaire d'État aux colonies, ce qui lui vaut quelques semaines dans la prison londonienne de Holloway. Le chef Thomas Bicham raconte que lorsqu'il est allé lui rendre visite, elle dirigeait un chœur de prisonnières dans la cour avec une brosse à dents en guise de baguette. Et que chantait-elle à votre avis ? The March of Women, bien sûr. Est-ce cette expérience en prison qui lui a inspiré l'une de ses dernières œuvres, The Prison ? L'œuvre raconte le dialogue entre un prisonnier détenu par erreur, et son âme. Une œuvre sombre, crépusculaire. Elle a été enregistrée pour la première fois en 2020, soit 90 ans après sa création. C'est la dernière grande œuvre de la compositrice. La soprano Sarah Briley incarnait l'âme du prisonnier dans cet extrait de la symphonie chorale The Prison d'Ethel Smyth. Elle était avec l'Experiential Orchestra, l'Experiential Chorus et James Blackley. Ethel Smyth offre un bel exemple de compositrice couronnée de récompenses et de succès. Depuis Ethel Smyth, une seule compositrice a été jouée au Metropolitan Opera de New York. C'était Kaya Sarriao en 2016 avec L'amour de loin. Un extrait de l'opéra L'amour de loin, l'orchestre symphonique allemand de Berlin, le chœur de la radio de Berlin, Kent Nagano et Ekaterina Lekina dans le rôle de Clémence. La partition est signée Kaya Sarriao, une compositrice née en 1952 à Helsinki, et le livret est d'Amin Malouf. L'amour de loin est le tout premier opéra de Kaya Sarriao, entre Orient et Occident. Il nous plonge au XIIe siècle avec le troubadour Geoffrey Rudel qui s'embarque pour l'Orient afin de rejoindre Tripoli. Là-bas, dit-on, vit une femme qui incarne son idéal, l'amour pur. Il l'aime à distance sans l'avoir jamais vue et décide de la retrouver. Mais au cours de sa longue traversée, il tombera malade. Il arrivera enfin pour mourir dans ses bras. On écoute un extrait de ses retrouvailles éphémères avec, en plus des interprètes déjà cités, le baryton Daniel Belcher.
Je vous aurais reconnu entre toutes les femmes.
Comment ne vous est pas indifférent.
Que dit le médecin arabe? Il dit qu'il vivra tout au plus jusqu'à l'aube. Mon Dieu!
Ne chuchotez pas, je n'ignore rien de mon état. Les médecins peuvent mentir pour rassurer. Mais au quai du cœur, ne monte pas.
Il est possible que notre Seigneur ne prie pas encore vous arracher à ceux qui vous entourent.
N'abusons pas des bontés du ciel. Je lui ai demandé la grâce de vous voir une fois avant de mourir. Vous voilà. Ma dernière image que je garderai de ce monde est celle de votre visage et de vos yeux qui pourrais-je connaître une joie plus entière? N'aurait-il pas le droit de les reprendre? Ce n'est jamais l'amour qui est indigne, c'est nous qui sommes parfois indignes de l'amour. Ce n'est jamais l'amour qui nous trahit, c'est nous qui trahissons l'amour.
Un extrait de L'amour de loin de Kaya Sarriao. L'enregistrement que nous venons d'entendre avec notamment Kent Nagano et le Deutsche Symphonieorchester de Berlin a obtenu en 2010 le Grammy Award du meilleur enregistrement d'opéra. Récemment, vous avez peut-être entendu parler de Kaya Sarriao puisque son opéra Innocence a triomphé au Festival d'Aix-en-Provence.
Été classique, Elsa Fotorino, c'est l'été sur France Musique.
Imaginez, vous avez 9 ans, il fait chaud, vous êtes à la campagne. Vous jouez dans la nature en attendant le retour de votre mère. Quand elle revient, sa tête est recouverte de bandages. Vous ne la reconnaissez pas. Et d'ailleurs, est-ce bien elle? Vous l'avez compris, il y a de quoi s'inquiéter et même les berceuses virent au cauchemar.
Thank you.
nous écoutons la bande originale du film d'angoisse Good Night Mummy. Elle a été confiée à la compositrice autrichienne Olga Neuwirth. Élève de Tristan Murail, elle est proche de l'écrivaine Elfriede Jelinek, prix Nobel de littérature. Elle compose également sur des textes de Paul Auster. Pour cette figure de proue de la musique contemporaine, le cinéma est un terrain de jeu. Elle a d'ailleurs écrit une musique sur le film Lost Highways de David Lynch. Son très beau parcours atteint son apogée en 2019 avec la création de son premier grand opéra, Orlando, à l'Opéra de Vienne. C'était la première fois que l'institution accueillait une création féminine. Et quelle création ! Son adaptation du texte de Virginia Woolf est revisitée à l'aune du féminisme radical. Le livret nous conte l'histoire d'un noble anglais sous la reine Élisabeth Ière qui traverse les époques et moult péripéties avant de devenir une écrivaine dans les années 20. Un homme qui change de sexe et sur scène que des femmes, voilà de quoi faire trembler les murs de l'institution. Un autre opéra qui met en scène un monde régenté par des femmes, c'est, tenez-vous bien, La Liberazione di Ruggiero dall'Isola di Alcina, composé par Francesca Caccini et qui date de 1625. Le livret de Ferdinando Saracinelli s'inspire des chants de l'Orlando Furioso. Alcina et Melissa, deux magiciennes, convoitent toutes deux le cœur du chevalier Ruggiero. Alcina le retient prisonnier dans son jardin. Tout comme ses autres amants d'ailleurs, qui sont tous transformés en plantes exotiques. Deux extraits de La Liberazione di Ruggiero dall'Isola di Alcina de Francesca Caccini avec les chœurs et orchestres, la Pifarecha et Alabastrina que dirigeait Elena Sartori. Cet opéra serait le tout premier opéra de l'histoire à être composé par une femme. La musicologue Eva Weissweiler nous dit que dans cette partition, les rapports de pouvoir entre les sexes sont complètement inversés. C'est un monde à l'envers qui est présenté sur la scène. Il faut dire que la famille Caccini, une famille de musiciens, est protégée par les Médicis. Cet opéra peut être envisagé comme le reflet de la cour de cette puissante famille florentine où les régentes Christine et Marie-Madeleine régnaient d'une main de maître. L'époque baroque italienne est florissante pour les compositrices. Elles parviennent même à se faire publier. On compte surtout des œuvres sacrées écrites par des religieuses au sein de leur monastère, comme par exemple Isabella Leonarda. Le talent de Francesca Caccini, qui est également une chanteuse renommée, sera reconnu par ses pairs. L'opéra que nous venons d'entendre a d'ailleurs été créé à la Villa di Poggio Imperiale de Florence avant d'être joué 4 ans plus tard en Pologne. Le rayonnement de cette compositrice dépassait les simples frontières de l'Italie. Nous sommes toujours avec Francesca Caccini et la Liberazione di Ruggero dall'Isola di Alcina, et toujours les mêmes interprètes. Cet opéra est le seul de la compositrice qui soit parvenu intégralement jusqu'à nous. Il démontre son écriture virtuose et parfaitement maîtrisée. Une partition qui s'inscrit dans la lignée de l'Orfeo de Monteverdi, composé 20 ans plus tôt.
C'est l'été sur France Musique. Femme pionnière, Elsa Fattorino.
Céphale et Procris d'Elisabeth Jacques et Delaguerre serait le premier opéra à être composé par une femme en France. Adapté des Métamorphoses d'Ovide, il est représenté pour la première fois en 1694 à l'Académie royale de musique. Mais Elisabeth Jacques et Delaguerre, qui était une enfant prodige, est surtout célébrée pour ses pièces dédiées au clavecin et ses cantates. Placée sous la protection officielle du Roi Soleil, son opéra ne rencontre pas le succès pourtant bien mérité, car sa partition atteint des sommets d'expressivité.
Thank you. chose impitoyable. Ce que c'est malheureuse en graine vos désirs. Vous m'enlevez tous mes désirs. Mon cœur désespéré vous trouve inexorable. Tu es cruel, tu es impitoyable. Ce que c'est malheureuse en graine vos désirs. Mon rival ici va paraître. Confuse, elle lève dans les airs, sa chance à nous faire connaître le sujet de ses
Daniela Dolci dirigeait l'ensemble Musica Fiorita dans ces deux extraits de Céphale et Procris d'Elisabeth Jacquet de la Guerre. Nous entendions le haut contre Achim Schulz dans le rôle de Céphale. Restons en France et glissons-nous dans les rangs de l'Académie de musique de Paris. Nous sommes le 14 novembre 1836. Ce soir se joue un opéra, La Esmeralda de Louise Bertin. Tout le gratin parisien est réuni pour cette représentation très attendue qui réunit a priori tous les ingrédients du succès. Une musique inventive, dramatique et un livret réalisé par un des plus grands écrivains français, Victor Hugo, qui a adapté pour la scène son roman Notre-Dame de Paris. Après 5 années de collaboration avec Hugo et pas moins de 86 répétitions, le rideau se lève enfin sur cette œuvre majeure de Louise Bertin. La superbe romance chantée par Esmeralda au début de l'acte 4 de l'opéra « La Esmeralda » de Louise Bertin, ici incarnée par Maya Boug. Elle était entourée de Laurence Foster et l'Orchestre National de Montpellier, un enregistrement live qui date de 2008. C'est la première fois que cet opéra était rejoué depuis 172 ans, Sa création au XIXe siècle s'est soldée par un échec très violent pour la compositrice. Avec ce quatrième opéra, elle connaîtra un déclin inexorable et ne s'en remettra pas. Il faut dire que Louise Bertin était la fille du directeur du journal des débats, un orléaniste proclamé, et que Victor Hugo n'avait pas que des amis. La critique s'est déchaînée. Berlioz, qui a conduit les répétitions, puisque la jeune Louise ayant été atteinte par la poliomyélite, ne pouvait se déplacer qu'avec des béquilles. Il raconte cet échec dans ses mémoires. Cette œuvre d'une femme dont le seul tort était d'appartenir à la famille des directeurs d'un journal puissant, dont un certain public détestait alors la tendance politique, cette œuvre de beaucoup supérieure à tant de productions que nous voyons journellement réussir, ou du moins être acceptée, tomba avec un fracas épouvantable. Mais laissons le dernier mot à Victor Hugo, à ses phrases lyriques et son emphase romantique. « L'avenir, dit-il, n'en doutez pas, mon ami remettra à sa place ce sévère et remarquable opéra, déchiré à son apparition avec tant de violence et proscrit avec tant d'injustice. Le public, trop souvent abusé par les tumultes haineux qui se font autour de toutes les grandes œuvres, voudra enfin réviser le jugement passionné, fulminé, unanimement par les partis politiques, les rivalités musicales et les coteries littéraires, et saura admirer un jour cette douce et profonde musique, si pathétique et si forte, si gracieuse par endroits, si douloureuse par moments. Création où se mêle pour ainsi dire dans chaque note ce qu'il y a de plus tendre et ce qu'il y a de plus grave, le cœur d'une femme et l'esprit d'un penseur. Séchez vos larmes et un peu d'humour à présent avec Germaine Taillefer et ce petit opéra radiophonique enlevé, un pastiche dans le style de Rossini.
Monsieur Petit Pois achète un château.
Femme produit de l'industrie qu'un siècle éclairé se plaît à vanter, le plus merveilleux, le moins coûteux, le plus merveilleux, le moins coûteux. Qui attache le sexe enchanteur à l'époux vainqueur. Faites-vous aimer, messieurs, portez. Faites-vous aimer, messieurs, portez. La moustache, la moustache.
Un pastiche d'opéra daté de 1955, signé Germaine Taillefer. Monsieur Petit Pois achète un château, opéra bouffe humoristique, est une commande de Jean Tardieu, alors directeur de l'ORTF, sur un livret de Denise Santor. Cette partition est à part dans l'œuvre de Germaine Taillefer, qui côtoie peintre, sculpteur et appartient au groupe des Six, fondé au début des années 20. Il réunit notamment Darius Milhaud et Georges Auric, et ses deux figures tutélaires sont Cocteau et Satie. On doit au groupe des Six une œuvre commune, Les Mariés de la Tour Eiffel.
Thank you.
La valse des dépêches et le quadrille de Germaine Taillefer, composé pour le ballet collectif Les Mariés de la Tour Eiffel, auquel ont également contribué Georges Auric, Arthur Honegger, Darius Milhaud et Francis Poulenc. Une œuvre créée pour la première fois à Paris au Théâtre des Champs-Élysées. Nous l'écoutions dans une version du Philharmonia Orchestra et de Geoffrey Simon. Germaine Taillefer reste une figure assez peu connue. La légèreté apparente de certaines de ses pièces ou de certains titres d'œuvres ont pu la discréditer en la faisant passer pour une compositrice peu sérieuse. Mais chez elle, la légèreté n'est jamais éloignée de l'élégance. Notons également qu'elle a composé pour toutes les formes, ballet, opéra, musique de chambre, concerto, musique symphonique, ce qui lui importait avant tout, la liberté. On se quitte avec sa valse lente, juste pour le plaisir. La délicieuse valse lente de Germaine Taillefer sous les doigts du pianiste Aldo Ciccolini. Ainsi s'achève le cinquième volet de Femmes pionnières. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Dorothée Goll à la production, Félix Levaché à la réalisation et Pierre Monteil à la technique. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.